Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toi, auditrice, bonjour à toi, auditeur qui écoute Micro Rebelle Hebdo, en direct ce vendredi 24 septembre à 18h ou bien en podcast à un tout autre moment. L'émission est rediffusée sur PFM 99.9 à Arras et elle se trouve également en podcast téléchargeable sur notre site internet www.microrebellehebdo.fr dès la fin de cette émission. Autour de la table avec moi, j'ai donc le groupe, une partie du groupe des neuf, Evelyne de l'AFGR-FP,
Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique,
Alain, du FSU.
De la FSU, oui, la Fédération Syndicale Unitaire.
Et François, de chez Solidaire.
Qui regroupe, entre autres, tous les syndicats sud.
Merci à vous d'être présents pour Micro Rebelle Hebdo et pour nous parler de la journée de mobilisation du vendredi 1er octobre à 10h. Nous en parlerons plus en amont dans la suite de l'émission. Au programme de cette semaine, et autour de la table, il y a aussi Abou qui va nous lire l'agenda.
Salut.
Au programme de cette semaine, l'agenda social et culturel présenté par Aboubacar, la revue d'actualité et de presse proposée cette semaine par Lucien, deux communiqués engagés, l'un nous vient de Tourcoing, l'autre du Mexique. Pour Tourcoing, il s'agit du collectif mobilisé contre la destruction des jardins familiaux de la rue des Martyrs. Pour le Mexique, il s'agit d'un appel à la solidarité avec les villages unis pour la vie contre le pillage des nappes phréatiques par l'entreprise Danone. Nos invités... Donc le groupe, trois membres du groupe des neuf, retraités en lutte contre la précarisation croissante et pour la revalorisation des pensions et complémentaires de retraite. Ils préparent notamment la mobilisation du vendredi 1er octobre à 10h à Lens, place du Quentin, à Béthune, place Clémenceau, à Calais, à l'espace public des 4B et à Boulogne, devant la sous-préfecture. Tout cela vendredi prochain à 10h. Et vous entendrez pour agrémenter cette émission de la musique libre avec Groa, l'album What I Like To Do, leur chanson Dansa Upa Baki, et le groupe Osiris 4, leur album Contrast EP, sorti dernièrement avec le morceau Deep Down. Il est temps maintenant de démarrer notre agenda.
Demain samedi 25 septembre, concert Fossoyeur Sceptique de 18h à 20h à 21h au Lag, au lieu autogéré de Liévin, pour découvrir leur musique sur la plateforme Bandcamp. Cherchez les Fossoyeurs Sceptiques pour savoir plus sur le site internet, se trouve à cette adresse http://lesfossoyeurssceptiques.toile-du-milieu-libre.org.
Merci à vous et maintenant nous allons écouter la revue de presse de Lucien.
Nous consacrons cette chronique actualité cette semaine à la question du climat. Dans moins de deux mois, du 1er au 12 novembre, se tiendra la conférence internationale sur les changements climatiques, la conférence de Glasgow. Il s'agira de la 26e conférence des parties, d'où son nom, la COP26. Cette COP26 se soldera-t-elle une fois de plus par un échec? La question mérite d'être posée cette semaine, c'est-à-dire au moment où le Climate Action Tracker publie une analyse d'évaluation de l'action contre le réchauffement climatique dans 36 pays plus l'Union européenne. Le Climate Action Tracker, c'est un consortium composé de deux organisations à but non lucratif. Climate Analytics, spécialisé dans les sciences et les politiques climatiques et dont le siège se trouve à Berlin, et le New Climate Institute, qui couvre les sujets liés aux négociations internationales sur le climat. Les deux structures collaborent avec l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique, le PIK, un institut de premier plan dans le domaine. Dans son rapport, le Climate Action Tracker évalue les engagements de ces 36 pays et de l'Union européenne au regard de la COP21 qui s'est tenue à Paris il y a 6 ans et qui a débouché sur un accord international sur le climat applicable à tous les pays participants et fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici 2100. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui selon ce rapport du Climate Action Tracker? Un seul pays tient ses engagements, la Gambie. 7 pays tiennent presque leurs engagements, le Costa Rica, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc, le Népal, le Nigeria, le Royaume-Uni. 8 pays sont classés dans la catégorie insuffisant, le Chili, l'Allemagne, le Japon, la Norvège, le Pérou, l'Afrique du Sud, la Suisse, les États-Unis. À ces 8 pays, il faut ajouter l'Union européenne, elle aussi dans la catégorie insuffisant. 15 pays sont classés dans la catégorie hautement insuffisant. L'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, l'Inde, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l'Ukraine, le Vietnam. Et enfin, 5 pays sont répertoriés dans la catégorie insuffisance critique, l'Iran, la Russie, l'Arabie saoudite, Singapour, la Thaïlande. Ainsi, la Gambie, un État du centre de l'Afrique, est le seul à maintenir une politique écologique qui suit les accords de Paris. Et pour terminer son rapport, le Climate Action Tracker met en garde les pays développés. Ces derniers doivent encore revoir leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement climatique. D'où la question que nous posons à nouveau. La COP26 se soldera-t-elle une fois de plus par un échec? Les différentes COP sont des initiatives de l'ONU qui réunissent les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CCNUCC. De plus en plus d'associations, de collectifs militants remettent en cause la logique de ces sommets onusiens. Par exemple, une fracture se dessine entre les associations qui acceptent la logique du marché du carbone et celles qui la refusent. Nombreux sont ceux qui affirment la nécessité de s'attaquer au capitalisme pour combattre les changements climatiques. Tout cela est résumé dans le slogan « Changer le système, pas le climat ». Les associations écologiques traditionnelles pourraient perdre la main et ne plus être capables d'imposer leur stratégie conciliatrice vis-à-vis du capitalisme. Quand on dévaste la nature au nom des énergies fossiles, quand on viole les droits humains pour extraire des ressources, quand on place le profit avant toute autre considération, quand on assigne à résidence les écologistes pour les faire taire, s'engager à protéger ce que jusqu'ici on a détruit quotidiennement paraît en effet assez improbable. Et puis sur le fond, on peut estimer que le capitalisme n'a pas d'autre choix que de continuer à dégrader le climat. En fait, c'est dans son code génétique. Pour assurer leur développement, les grandes entreprises se doivent de produire davantage. Et cette course au productivisme ne peut qu'être synonyme d'un côté de davantage d'exploitation des travailleuses et travailleurs et de l'autre de davantage d'exploitation de la nature, des ressources environnementales et donc de dégradation du climat. C'est donc bien dans l'opposition déclarée au capitalisme, une opposition qui mêle écologie et critique sociale, qu'il nous faut inscrire nos luttes contre le réchauffement climatique.
Merci Lucien pour cette revue de presse. Et maintenant, une seconde date de l'agenda.
Ce week-end, du 25 au 26 septembre, Ena Beaumont, un appel à boycotter le salon de la Pologne par les amis Edouard Girek.
En effet, le 6e salon de la Pologne se déroulera ce week-end à l'espace François Mitterrand des Nains Beaumont. Organisée par l'association Cracus, cette manifestation bénéficie d'un large soutien de la municipalité, dirigée par le Rassemblement National. faisant des Polonais immigrés dans le bassin minier, dans l'entre-deux-guerres, un exemple d'assimilation réussie. Or, loin d'avoir été idyllique, le processus d'insertion des Polonais dans la société française s'est révélé largement chaotique. Retour forcé au pays en période de récession économique, rapatriement volontaire à la libération, expulsion de syndicalistes, etc. Aussi, en élevant la communauté polonaise au rang de modèle, le Rassemblement national instrumentalise l'histoire, et ce parti d'extrême droite de viser en creux la communauté maghrébine coupable à ses yeux de refuser de se fondre dans le moule de l'intégration. Une assertion qui relève là encore de l'imposture. En signe de désapprobation de ce révisionnisme historique, un appel au boycott de la cérémonie d'ouverture a été lancé par l'association Les Amis d'Edouard Girec et le PCF des Nains Beaumont, soucieux de ne pas laisser le RN occuper seul ce champ mémoriel. Et maintenant, un communiqué engagé à propos des jardins familiaux à Tourcoing. La destruction des jardins familiaux de la rue des Martyrs à Tourcoing a débuté le 10 septembre. Nous, habitants de cette rue et solidaires des usagers, refusons la disparition de ce lieu essentiel, patrimoine social et historique qui nous tient à cœur. Une zone d'activité doit voir le jour en lieu et place de ces jardins. Le programme prévoit notamment des commerces et un parking de 145 places. Cette zone viendra agrandir un environnement grignoté au fil des ans. Au centre commercial Auchan-Ronc, tout proche, est venu s'ajouter récemment la promenade des Flandres, un vaste espace commercial qui se situe derrière les jardins familiaux. Aujourd'hui, ces jardins sont menacés de disparition. Existant depuis près de 50 ans, ils ont constitué un lieu où se détendre, discuter, partager. Plusieurs générations de riverains ont grandi avec les jardins pour l'horizon. Cet horizon risque de se réduire plus que jamais, à une série de murs et d'enseignes lumineuses, sans parler de nuisances sonores et environnementales, passages répétés de véhicules, poids lourds, déchets, etc. Pour les jardiniers, habitants du quartier, ou d'ailleurs, cela signifierait vraiment la fin d'une époque. Une époque où l'on cultivait des fruits et des légumes, bien sûr, mais aussi la solidarité. Le collectif Sauvons les jardins familiaux à Tourcoing appelle à une... Pour l'instant, ils ont créé une pétition que vous pouvez signer, puis vous pouvez essayer de les joindre sur Facebook également si vous voulez les aider, que vous êtes dans le coin, vers Tourcoing. Voilà, et maintenant, il est temps à nouveau d'une nouvelle date pour l'agenda.
La semaine prochaine, vendredi 1er octobre, manifestation à Lens, à Béthune, à Calais et à Boulogne pour des retraites décentes en cette saison de vote des budgets de la sécurité sociale et de la loi finance. Les manifestations ont lieu à 10h à Lens, place de Quentin, à Béthune, place de Clémenceau, à Calais, à la place publique des 4B et à Boulogne, devant la sous-préfecture. Nous parlons des raisons de cette mobilisation plus en détail avec nos invités dans la seconde partie de cette émission.
Et oui, effectivement, cette date est importante car c'est la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui le groupe des Neuf. Est-ce que vous voulez nous dire un mot à propos de un mot rapide sur cette mobilisation, sur cette journée, pour donner le rendez-vous, pour...
En fait, c'est une mobilisation qui s'inscrit dans une action qui est beaucoup plus longue dans le temps, hein, puisque le groupe des Neuf se réunit déjà depuis plusieurs années pour envisager des actions qui soutiennent ce qu'on va vous développer tout à l'heure, hein, les points principaux. Et dans le Pas-de-Calais, plus précisément, puisque on représente, nous, ici, l'Union... Le collectif intersyndical du Pas-de-Calais, nous organisons depuis 4 ans maintenant un rassemblement, un colloque qu'on appelle les Burburennes, qui a donc lieu tous les ans, sauf bien entendu l'an dernier à cause des mesures sanitaires. Voilà.
D'accord, bah merci beaucoup. On va explorer ça plus en détail tout à l'heure. Et en attendant, je vous propose d'écouter un morceau de musique. Alors, notre morceau s'appelle... Alors, c'est le groupe Groa dans l'album What I Like To Do. Danza Upa Baki sur Micro Rebelle. C'est un groupe très dynamique, très intéressant à découvrir, qui est présent donc sur Bandcamp. Il y a plusieurs de leurs albums et là, c'est le tout dernier sorti, What I Like To Do. Je vous propose maintenant d'écouter un petit un appel, car... alors... En octobre, une délégation de zapatistes va venir... en Europe, en fait, hein, en octobre plus précisément, ils viennent dans la zone 2, donc Europe du Nord, donc ça nous concerne. Ils vont venir à Lille et également dans le bassin minier. Et voici un petit appel pour présenter la prochaine réunion, pour les accueillir, etc.
Alors, je suis Stéphane, je milite à Solidaire Nord et je fais partie avec d'autres organisations ici présentes et des militants et des militantes du collectif Zalig. Le collectif Zalig, c'est le collectif lillois de Lille et des environs qui prépare l'accueil d'une délégation, enfin d'une partie de la délégation zapatiste qui arrivera en France à partir du mois d'octobre. Alors, nos camarades zapatistes, après bien des difficultés, sont arrivés à Vienne le 16 septembre dernier. Et on est ravis que le reste de la délégation ait pu arriver à entrer en Europe. Cette délégation, maintenant, va rendre visite à des groupes de militants un petit peu partout en Europe. Et on espère bien les avoir quelques jours à Lille. On a prévu un beau programme dans le bassin minier, des rencontres avec les travailleurs et travailleuses d'Amazon et plein de choses intéressantes qu'on aimerait partager avec nos camarades zapatistes. Donc aujourd'hui, on est dans les locaux de la CNT à Lille pour préparer cette rencontre.
Merci. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du mouvement zapatiste ?
Alors, le mouvement zapatiste, depuis 1994, c'est quelque chose qui a... qui a impressionné et influencé beaucoup de militants et de groupes de militants et d'organisations syndicales et politiques. On se souvient que à l'origine, c'est un mouvement qui vient des populations autochtones qui cherchaient à récupérer ce que l'histoire coloniale de captation des terres et des ressources leur avait ôté, et à s'organiser de façon démocratique, autogérée, dans des communautés qui s'appellent les caracoles. Donc rien que le mode d'organisation Zapati, c'est quelque chose qui nous intéresse à Solidaire, mais aussi dans d'autres organisations syndicales et politiques. C'est un mouvement qui dure depuis 1994. C'est un exemple de communauté réellement autogérée. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde, et ça aussi, ça nous intéresse. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a envie de rencontrer ces camarades là, dans la période pour laquelle ils seront ici.
Il y a aussi toute une part... féministes, ils prêtent beaucoup d'importance à l'horizontalité et puis également à la mixité, au respect des genres, ça c'est quelque chose aussi. Ils sont 28 délégations de 4-5 personnes, c'est ça, enfin 28 petites équipes de 4-5 personnes qui vont se dispatcher dans toute l'Europe du Nord, pour notre localité à nous, c'est la zone 2, parce qu'ils ont prévu une zone 1, une zone 2, une zone 3 pour visiter l'Europe. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ?
Alors, en Europe, ça va avoir lieu, si je me souviens bien, du 10 octobre au 6 novembre. Enfin, en Europe, dans la zone qui inclut la France, ça va avoir lieu du 10 octobre au 6 novembre. Alors, ça implique la Suisse, la Belgique et beaucoup d'autres pays. Donc, j'imagine qu'ils ne vont pas chômer. L'idée, c'est que sur ces 28 groupes, les groupes se dispatchent un petit peu dans les différents endroits. À nous, la charge d'essayer d'organiser, de coordonner ça au mieux, dans l'idéal, évidemment, pour l'île. Ce serait bien qu'on puisse se coordonner avec nos camarades belges, notamment de Bruxelles et de Tournai, et avec les autres régions frontalières.
Est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous à donner ?
En tout cas, on se retrouve pour le collectif Zalig, a priori, le mercredi 29 prochain à 18h30, pour essayer de vraiment avancer, parce que la date approche.
Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais juste un mot à ajouter pour donner envie aux auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément le mouvement Quel intérêt peut-on porter à cette auto-organisation, cette façon de faire de l'autogestion ?
Dans une période qui est quand même assez triste et morose politiquement, voire dramatique à bien des niveaux, on est de plus en plus nombreux et nombreuses à se rendre compte qu'il faut changer nos façons de faire, nos façons de consommer. Le capitalisme, qui est quand même une des causes, selon nous, de pas mal de problèmes. Les questions environnementales, et effectivement, depuis 1994, ces communautés zapatistes, elles ont mis au cœur de leur organisation politique toutes ces questions. Tu évoquais tout à l'heure la question des genres et de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, mais pas seulement. Tout ça, c'est des choses qui apparemment ont pu fonctionner à partir de communautés qui étaient très, au départ, très divisées, extrêmement opprimées. Pour moi, c'est quelque chose qui est inspirant et quelque chose qui peut donner de l'espoir et l'envie de continuer à se battre dans une période où c'est difficile.
Eh bien, je te remercie beaucoup. Donc, rendez-vous mercredi prochain, le 29, dans les locaux de la CNT de Lille, rue d'Arras. Alors, voici le préambule de la déclaration de la forêt de la Lacandon, du 1er janvier 1994, moment fondateur pour le mouvement zapatiste. Nous luttons pour le travail, la terre, un toit, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'indépendance, la liberté, la démocratie, la justice et la paix. Nous ne cesserons pas de nous battre tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction et formé un gouvernement libre et démocratique pour notre pays. Une des choses qui est particulière dans ce mouvement, c'est le manque de dogmatisme. C'est plutôt un point d'honneur qui a été mis à éviter le dogmatisme. Caminar preguntando, avancer en se posant des questions. Il préfère la souplesse de la question à la rigidité de la théorie. C'est un mouvement à découvrir et c'est l'occasion de le découvrir en octobre, étant donné qu'ils viennent. Le collectif qui les reçoit, si vous voulez vous en rapprocher, s'appelle la Tzalig, zone d'accueil lilloise et intergalactique. Voilà, il est temps maintenant d'écouter encore une date de l'agenda, présentée par Abou.
samedi 2 octobre au bar La Moulinette de Lille, 19h30 jusqu'à 22h. Cantine sociale, solidaire, plus concert en solidarité, en soutien aux abattis et en préparation de leur venue en octobre dans la région. C'est l'occasion de se renseigner sur l'histoire de ce mouvement et sur sa réalité aujourd'hui. Pour la cantine solidaire, la cuisine a besoin de bonne volonté pour préparer le repas à partir de 15h. À partir de 20h30, concert de Manik Maïs. Tout ceci se passe au bar La Moulinette de Lille, 105 boulevard Victor Hugo.
Et donc, vous pouvez donc soit être spectateur du concert de Manik Maya à partir de 19h30 et 20h30, ça commence vraiment. Et pour ceux qui sont motivés à aider pour la cantine, c'est à partir de 15h30. Et maintenant, rapidement, un second communiqué qui nous vient du Mexique. Là où ceux d'en haut détruisent, nous construisons. Solidarité avec les villages unis pour la vie au Mexique, en lutte contre le pillage de leur nappe phréatique par l'entreprise Danone Bonafou. Depuis près de 30 ans, la multinationale Danone pille les nappes phréatiques du territoire des villages Nahua, de la région de Cholula, état de Puebla au Mexique. Au travers de sa filiale mexicaine Bonafon, principale marque d'eau en bouteille de ce pays, chaque jour, du fait de l'intoxication des eaux et de la spoliation de leurs ressources naturelles, des dizaines de millions de Mexicains doivent acheter des bidons d'eau en bouteille à ces mêmes multinationales venues détruire et piller leurs terres. Et le Mexique constitue un des 5 principaux pays exploités par les actionnaires assoiffés d'argent de l'entreprise Danone. Dans cet endroit de pillage, d'assèchement progressif de la flore et d'intoxication des sols, les villages unis pour la vie de cette région ont décidé de construire un espace communautaire pour la reconstruction intégrale de nos peuples sur la base des 13 revendications apatistes: santé, éducation, alimentation, logement, terre, travail, indépendance, information, égalité, liberté, démocratie, justice et paix. Voilà, je vous laisse vous intéresser à tout ça en allant sur le site de l'association Altepelt Mekali ou en cherchant plus d'informations sur le pillage des nappes phréatiques par Danone. Et il en va de même pour les entreprises Coca, etc., qui font de graves problèmes au Mexique. Voilà, nous allons désormais passer à la seconde partie de notre émission pour enfin laisser la parole à nos invités.
Web radio indépendante de Bassamini, micro-rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Alors juste avant de passer à l'interview, peut-être qu'il y a une dernière date, une cinquième date à donner à vous.
Alors il y a samedi 2 octobre, organisons-nous les contradictions qui travaillent l'organisation collective rencontre débat avec
Adeline de l'Épinay,
auteur
du livre Organisons-nous, manuel critique. La thématique de la rencontre, les contradictions qui traversent l'organisation collective. Ce sera au lieu autogéré de Liévin de 10h à 13h. Entrée libre, mais pour cette rencontre, la jauge est limitée à 25 personnes. N'hésitez pas alors à vous inscrire rapidement à l'adresse contact@lelag.fr.
Cette rencontre s'inscrit dans la préparation des rencontres de l'éducation populaire le 6 novembre au LAG.
Merci beaucoup à vous et nous allons enfin maintenant donner la parole à Evelyne, Alain et François. Bonjour à vous et merci d'être là.
Bonjour.
Alors, En effet, c'est à l'automne que se votent les budgets de la sécurité sociale, la loi des finances. Vous pointez le constat selon lequel l'augmentation des retraites de base ne suit pas du tout suffisamment, n'est pas indexée au coût de la vie. Sans compter le gel des pensions, des retraites complémentaires qui ont lieu depuis plusieurs années. Mais les retraités, loin d'être sans défense et sans ressources, s'élèvent pour faire valoir leurs revendications. Et c'est pourquoi nous les recevons aujourd'hui, notamment en vue de cette organisation de la journée du 1er octobre à 10h.
Oui, effectivement, les pensions baissent d'année en année. Depuis qu'elles sont indexées justement sur le coût de la vie, elles décrochent au fur et à mesure du SMIC ou même du salaire moyen. Donc, avec l'augmentation du prix de l'énergie, en particulier du pain, des pâtes, etc., la situation devient de plus en plus difficile. Donc, nous revendiquons une augmentation des retraites, un rattrapage des années précédentes, plus l'indexation donc des pensions sur l'évolution du salaire moyen. On sait que le gouvernement, avec la communication gouvernementale, va mettre en avant la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, en disant qu'il y aura un gain de pouvoir d'achat, en particulier pour tout le monde et aussi pour les retraités. Mais seulement, cette mesure ne s'adresse qu'aux retraités qui sont propriétaires de leur logement. Donc ça en laisse quand même une très grande partie des 17 millions de retraités qui ne verront rien venir. Pardon. Des mesures ont été proposées qui ne sont pas encore votées, mais l'abattement des 10% pour le calcul d'impôt sur le revenu des retraités a été évoqué. Et ensuite aussi l'augmentation de la CSG et pourquoi pas de la CASA tant qu'on y est. Donc le 1er octobre, nous défilerons, nous nous rassemblerons pour demander une augmentation de nos pensions.
Merci beaucoup. J'ai noté également dans vos revendications une revendication intéressante qui est sur le fait de demander que la Sécu soit intégralement financée par les cotisations sociales. C'est certainement pour qu'elle puisse retrouver de l'indépendance et de la souveraineté sur ses missions, sur son budget.
En fait, c'est par rapport à la loi Grand Âge et Autonomie qui nous est promis depuis plusieurs années, qui concerne à la fois les personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi les handicapés. Et cette année a été votée la cinquième branche de la Sécurité sociale, censée financer cette loi, qui n'existe toujours pas, mais enfin. Nous ne voulons pas de cette cinquième branche à part de la Sécurité sociale. Nous voulons que le financement de l'aide à la perte d'autonomie reste dans la branche maladie de la Sécurité sociale et que la Sécurité sociale finance cette perte d'autonomie à 100%.
D'accord, effectivement. Alors, cette loi Grand Âge, en quoi est-ce qu'elle consiste? Quand est-ce qu'elle a été annoncée?
Elle a été annoncée depuis de nombreuses années. Particulièrement depuis 2019, il y a eu le rapport Libault qui a énoncé 175 recommandations qui étaient intéressantes mais qui a été oubliée. De nombreux autres rapports sont parus concernant l'isolement des personnes âgées, les logements des personnes âgées, etc.
Les
aides à domicile, etc. Mais on ne voit rien venir. Et ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes résolutions qui sont prises, mais aucun moyen financier prévu pour cela, hormis les assurances privées.
Ça fait plutôt office de vœux pieux annoncés de la part de de la sphère politique, mais qui ont très peu de chances d'être des promesses remplies.
Concrètes.
Ça a été reporté depuis Nicolas Sarkozy. Donc les lois sont reportées, donc c'est pas nouveau. Hein. En fait, il y a un financement qui vaut à peu près une dizaine de milliards d'euros pour financer la perte d'autonomie, et en particulier donc due à l'âge, la maladie et au handicap. Et aucun moyen de trouver cet argent, sauf aller le chercher dans la poche des gens qui sont des retraités, en fait. Donc nous, ce qu'on désire, c'est quelque chose de solidaire. Hein, c'est les aléas de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. S'il y a une perte d'autonomie, ça devait être pris aussi sur le budget de la sécurité sociale dans le cadre de la branche maladie.
Est-ce qu'il est envisagé une augmentation des cotisations sociales liées à cette branche de la sécurité sociale?
Bah, le gouvernement ne veut pas toucher aux impôts, ne veut pas toucher aux cotisations sociales. Il faut savoir qu'en France, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, les employeurs ont des exonérations de cotisations sociales. Ce qui n'arrange pas les choses, évidemment.
Des abattements auxquels ils ne sont pas forcés de souscrire. Tout à fait. Alors, contrairement à l'image qu'on se fait d'une désunion de la résistance, d'une désunion de la gauche, vous êtes représentant de plusieurs organisations différentes qui travaillaient ensemble. Comment se passe la coopération? Vous êtes le groupe des neuf, donc il y en a encore d'autres. Peut-être que vous pouvez m'en parler un petit peu de cette coordination.
Donc le groupe des neuf, c'est représenté par la CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et Ensemble Solidaires, c'est ça?
C'est une association. Oui.
Là, pour ce mouvement du 1er octobre, s'est associé également un autre regroupement de retraités de la fonction publique, qu'on appelle le Pôle des retraités, qui regroupe les retraités de la Poste. La FGR y siège aussi. On y retrouve les retraités des officiers de marine, de la gendarmerie, de la police et des sous-officiers. Donc ça regroupe vraiment une grande partie de retraités et on travaille de plus en plus ensemble. On se réunit, disons que l'appel est national et il est décliné au niveau départemental. On se réunit pour voir quelles actions on met en place. Donc là, on a parlé des mobilisations du 1er octobre. Ça figurera comme des rassemblements cette fois-ci. On ne fait pas de défilé, on fait des rassemblements avec signature de pétition. Et je dois ajouter que l'après-midi, des délégations iront. On a demandé audience pour des délégations en préfecture à 14h30 pour déposer les pétitions et à 16h30 au conseil départemental pour également reparler de la loi grand âge et autonomie, puisque le conseil départemental est fortement partie prenante pour gérer l'action sociale au niveau des personnes âgées et handicapées.
Est-ce que vous pensez que vous aurez une oreille constructive dans ces entretiens?
Nous avons été maintes fois reçus on nous écoute, mais on ne nous entend pas.
Oui, alors c'est une des revendications que porte le groupe des Neuf aussi, dans lequel il y a des organisations syndicales et des associations, c'est ça son originalité, c'est d'avoir un vrai interlocuteur au niveau du gouvernement. Donc une de nos revendications très anciennes, c'est celle d'avoir un secrétaire d'État aux retraités dans le ministère du Travail. Parce que si on est à la retraite, c'est qu'on a travaillé avant. Mais pour l'instant, ça restait aussi là, lettre morte. Ça concerne quand même 17 millions d'habitants, c'est pas rien. Donc on espère pouvoir être entendu. Depuis 2014, on travaille à ça. Ça avance doucement, parce qu'il y a quand même en face des résistances, surtout financières.
Et il a dû être difficile également de monter des syndicats de retraités. Je ne connais pas l'histoire des syndicats de retraités.
Ben, c'est-à-dire, en fait, tous les toutes les organisations syndicales ont une, soit une branche, soit qui représente les retraités. Alors, ça peut être à l'intérieur des syndicats eux-mêmes, à l'intérieur des confédérations, ou tout simplement des organisations de retraités en tant que telles. Et comme par exemple, ici, on a cité des associations. Concernant votre remarque de tout à l'heure, est-ce qu'il y a une difficulté particulière à travailler ensemble? En fait, il n'y en a aucune, puisque étant en prise directe avec les retraités qui, il faut le rappeler, ne sont plus dans les entreprises. Dans les entreprises, il est plus facile de les contacter, de les toucher, de les rassembler, de les faire bouger. Alors que, je parle des salariés, hein, bien sûr, alors que les retraités, ben, ils se retrouvent seuls, en fait. Hein. Et le fait qu'on ait 9 organisations, plus celles qui ont été citées tout à l'heure par Evelyne, qui aujourd'hui sont capables de travailler ensemble, c'est qu'on est vraiment bien en prise directe avec les besoins des retraités, et notamment des retraités qui sont dans le grand dénuement.
Oui, vous êtes sur des problématiques, des revendications très concrètes, hein, je les rappelle un petit peu. Donc la revalorisation, augmentation des pensions de retraite, des véritables négociations, comme Alain nous le rappelait, avec un référent, quelqu'un qui peut véritablement représenter, alors, par exemple, un secrétaire d'État au ministère du Travail, etc. Un vrai interlocuteur. Des bulletins de pension et une retraite pour toutes et tous. Plus de moyens pour les services publics, oui. Ça va de soi. C'est dans les, j'allais dire, ce qui vous lie aussi, c'est qu'il y a des intérêts communs, évidents et concrets. Et là, ça touche les intérêts communs à tous. Une sécurité mieux financée par les cotisations sociales avec plus d'indépendance. Je voulais rappeler également les dates de mobilisation. Donc le 1er octobre à 10h, à Lens, c'est place du Cantin, à Béthune, c'est place Clémenceau, à Calais, à l'espace public des 4B, et à Boulogne, c'est devant la sous-préfecture. Est-ce que pour cette journée de mobilisation, votre syndicat, vos syndicats, ont pu déposer une journée de grève, un appel à la grève ?
Il y a pas... Il pourrait y avoir effectivement un appel à la grève, mais bon, on sait que... Par exemple, dans l'éducation, le 23 octobre, donc hier, il y a eu des mouvements. Il y aura un mouvement...
Septembre,
pardon, excusez-moi. Le 5 octobre, il y aura un mouvement interprofessionnel. Donc, notre action se situe là. Donc, les retraités, par essence, ne travaillant plus, ne vont pas faire grève. Évidemment.
D'où ma question, en fait, c'était pour permettre évidemment aux salariés de vous rejoindre. En même temps, vous ne voulez peut-être pas surenchérir dans les journées de grève vont coûter à tous ceux qui vont le faire.
Sachant que tout salarié est un potentiel retraité, donc évidemment ça concerne aussi les pensions d'aujourd'hui, mais les pensions de demain aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. L'indexation sur le salaire moyen, ça permettra à tout retraité de vivre correctement. On réclame aussi pas de pension inférieure au SMIC. Hein, sachant que le seuil de pauvreté, ressenti seuil de pauvreté d'après le Secours populaire français, se situe juste en dessous du SMIC.
Mmh. Oui, je voulais d'ailleurs vous poser une question par rapport au nombre de retraités qui sont sous le seuil de pauvreté en France. Est-ce que vous savez ?
Alors oui, on chiffre à peu près... alors c'est compliqué parce qu'il y a différentes... Il y a différents... barèmes et puis voilà... 5 millions à peu près, hein, on considère qu'on tourne autour de 8%, ce qui est un des meilleurs taux européens, pour dire que dans les autres pays c'est pire. Donc, on tient aussi à ce que ce système de retraite qui permet justement de générer moins de pauvreté, hein, ce qui est surtout, alors, on retrouve les pauvres, surtout chez les femmes, qui n'ont pas des carrières complètes, ou qui ne vivent que des pensions de réversion de leur époux décédé. Donc il y a vraiment des gens qui sont en très grande difficulté, et qui font appel de plus en plus souvent d'ailleurs au Restaurant du Cœur et aux aides communales.
Oui, c'est aussi les personnes qui ont eu des travaux au niveau du travail, au niveau des métiers, des métiers avec moins de reconnaissance.
Il y a ça aussi, les carrières aussi.
Je voulais préciser que nos revendications, bien sûr, ne concernent pas uniquement les retraités, puisque on a parlé de la sécurité sociale, la protection sociale concerne tout le monde, et les services publics, la même chose, la défense des services publics, c'est pour l'ensemble de la population active comme retraitée.
Et dans ce contexte, on vient de vivre une crise sanitaire, on est encore dedans, où on a vu les services publics, les services de santé à genoux. J'ai du mal à trouver d'autres expressions parce que les soignants et soignantes ont fait des sacrifices énormes et continuent encore à en faire. C'est vrai que ces revendications qui sont importantes pour tous et toutes doivent être portées. Là, parce que c'était déjà important avant, et là, on a vraiment eu les conséquences et la vision concrète et directe de ce manque dans le service public.
Ce qu'il faut voir, c'est que les services publics ont tenu quand même pendant cette pandémie, mais ils ne vont pas tenir comme ça sans arrêt, et on va continuer à supprimer des services publics, des fonctionnaires, etc. Et la prochaine crise, on ne sait pas ce que ça va donner, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui est, à mon avis, que vous avez sûrement un point de vue sur la question de la retraite à points par rapport au système actuel.
Oui, alors la retraite par points, comment dire, le fait que le président de la République dise que chaque euro versé donnera la même chose, bon, c'est une vaste escroquerie, avec on va le dire comme ça, c'est un mensonge. Non, même pas d'inflation. Tout simplement, le système actuel de répartition des retraites permet de mettre en place des processus de solidarité, comme par exemple des trimestres supplémentaires quand on a élevé des enfants, le fait de prendre au régime général, sur une carrière, de prendre les 25 meilleures années, c'est-à-dire les années où on a été au chômage, il n'y a pas de sanction par rapport à la perception et au calcul de la pension. Par contre, si on est une retraite par points, où vont aller ces mécanismes de solidarité? Il y a aussi la réversion, hein, donc qui est une partie de la retraite du dernier conjoint vivant qui est reversée à l'autre. Donc on ne peut pas être sur un euro cotisé, donnera la même chose pour tout le monde, vu que les situations sont tellement diverses. Donc évidemment que cette retraite, nous n'en voulons pas, parce que c'est une retraite qui va faire... Actuellement, on peut savoir combien on va avoir de retraite. Avec une retraite par point, la retraite par point, on sera dans la précarité complète, c'est-à-dire que la retraite dépendra de la valeur qui sera donnée au point à l'instant T.
Et qui pourrait être modifiée selon le temps politique.
Tout à fait.
Nécessaire. D'ailleurs, concernant la fameuse réforme des retraites dont on parle et dont on a encore parlé aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu la remarque de Macron quant aux annonces qui ont été faites par Jean Castex, qui a fait remarquer qu'on ne pourra pas échapper à une réforme des retraites. Et ça suite à l'information selon laquelle le déficit de la sécurité sociale ne sera pas aussi important que prévu l'an prochain. Mais derrière, ce qu'il faut lire quand même en filigrane de la déclaration de Macron, c'est que la réforme des retraites, à la limite, ils s'en foutent de l'âge de la retraite. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est que toute cette manne financière puisse basculer dans le domaine privé, hein, parce que les assureurs n'attendent que ça. Hein, je crois que là-dessus, personne ne se trompe sur la volonté réelle de refonder la retraite.
Hein. Ah, le marché français est appétissant pour toutes ces mutuelles privées, etc.
Oui, on n'est plus dans le solidaire, que je disais, on est dans le projet individuel. Et pris en charge non pas par une caisse commune ou des caisses communes professionnelles, mais par un système qui va renforcer les inégalités et, à mon avis, renforcer la pauvreté chez les retraités si elle est vraiment appliquée. Mais bon, c'est pas encore gagné non plus pour le gouvernement.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu du CDCA?
Alors, moi, je siégeais au CDCA depuis 2017, depuis juillet 2017. Donc, c'est une instance qui regroupe les représentants des personnes âgées et des handicapés. Il y a deux collèges. Et on se réunit en séance plénière, selon la loi, au moins deux fois par an. C'est ce qui s'est passé. Mais pour nous, pendant 3 ans, on a été considérés comme une chambre d'enregistrement sur les textes qu'on devait adopter. On avait rarement, on recevait les textes en aval, en amont de la réunion. Donc on découvrait les textes le jour de la réunion, il fallait voter dans... On a réclamé pendant des années des commissions pour faire des dossiers, préparer des dossiers sur la mobilité, sur l'habitat, les EHPAD, l'état des EHPAD, etc. Et on n'a jamais rien obtenu, hormis en novembre 2020, on a fait une commission pour contribuer au LAROC de l'autonomie. Enfin, le LAROC de l'autonomie a été annoncé, il n'a jamais existé. Mais nous, on a fait la contribution en donnant en faisant l'état des lieux de ce qui existait par rapport à cette loi grand âge et autonomie et nos préconisations, nos propositions qu'on a donc travaillé en novembre avec le groupe des neuf et puis tous ceux qui siègent donc au CDCE, les volontaires. On s'est réunis en distanciel 3 fois en novembre et on a proposé donc ce texte qui a été présenté au CDCE et puis ensuite envoyé au ministère, à la secrétaire d'État, Madame Bourguignon, secrétaire d'État au ministère des Solidarités. Et on n'a pas de nouvelles. Et puis là, donc, on était élus pour 3 ans. Avec la pandémie, ça a été reculé d'un an. Et en ce moment, on va refaire la composition. Ils ont fait appel à candidature. Ils ont traîné avec... on a été prolongé d'un an. On a été encore prolongé parce qu'il y avait des élections, donc ils avaient autre chose à faire. Et là, ils sont en train de refaire les appels à candidature. Donc, ça augure mal de la nouvelle loi grand âge et autonomie, parce qu'on pensait que s'il y avait une nouvelle loi, on aurait changé cette institution d'une manière ou d'une autre. Mais si on reconduit cette institution, c'est que la loi grand âge et autonomie est encore sous tapis.
CDCA, c'est le conseil départemental
de la citoyenneté et de l'autonomie.
Et nous, ce qu'on voudrait qu'il existe, c'est que la citoyenneté, elle fonctionne à l'intérieur.
Et l'autonomie.
L'autonomie est prise en charge correctement.
D'accord. Et je vous remercie beaucoup.
Merci.
Est-ce que vous avez un mot de la fin, une chose à ajouter?
Mobilisons-nous pour améliorer nos conditions de vie et les conditions de tout un chacun.
Vers quelle plateforme est-ce qu'on peut retrouver vos informations, vos documents?
Sur les sites des organisations.
Les Burbennes aussi?
Les Burbennes.
Il n'y a pas de site.
Les Burbennes, pardon.
Il n'y a pas de site.
C'est issu du groupe des neuf, mais le groupe des neuf, il n'y a pas de site, donc il faut aller sur chaque site de chaque organisation.
D'accord. De toute façon, c'est une coordination intersyndicale. C'est porté par des associations, des syndicats. Cette cause est très importante, que vous soyez jeune, moins jeune ou à l'article de la mort. C'est quand même, pour tout le monde, quelque chose d'extrêmement important, ces causes-là. Je vous remercie énormément pour votre courage, votre prise de parole et d'être venu à Micro Rebelle.
Merci.
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 On va maintenant lire une dernière date de l'agenda que Abou va nous lire.
Et pour terminer l'agenda, vendredi 29 octobre, la commune au présent avec Ludivine Bantine contre... Rencontre débat avec Ludivine Bantini, auteur de la commune au présent une correspondance par la de, par delà le temps.
Oui, en fait, c'est parce qu'elle a, c'est une historienne, mais elle a écrit sous une forme d'épistolaire, donc comme si elle avait fait des lettres. C'est la commune au présent, une correspondance par-delà le temps, comme si des personnes de la commune nous écrivaient ou s'écrivaient entre elles. Travail de fiction et d'histoire en même temps.
Et c'est au LAG de 18h30 à 21h. Accueil à partir de 18h, entrée libre
pour cette rencontre,
la jauge est limitée à 25. Les inscriptions sont conseillées
auprès du LAG. Cette rencontre s'inscrit dans la préparation des rencontres de l'éducation populaire qui aura lieu le 6 novembre au LAG. Et ben, merci beaucoup. Merci à tous. On va se quitter en musique avec... le dernier EP de Osiris Fort, et la chanson s'appelle Deep Down.